Chapitre 53. Le prix d'un départ. À cause d'une pénurie de suif et d'huile, seules 3 bougies et 2 lampes éclairaient la salle commune de l'auberge de la Cascade à Vin. Les lances et les autres armes ne s'alignaient plus le long des murs, et le tonneau à épée était vide. Posées sur des tables poussées devant la cheminée, les lampes fournissaient juste assez de lumière pour que Marine Alvéré, Daïs Congar et d'autres membres du Cercle des Femmes puissent lire à voix haute et pointer diverses listes de vivres et d'équipements. Perrine, lui, essayait de ne pas entendre les femmes. Assise à une autre table, Fayle aiguisait ses couteaux, sa pierre à affûter produisant un grincement régulier. Un arc reposait devant elle, et un carquois rempli de flèches pendait à sa ceinture. La jeune femme s'était révélée une très bonne archère. La connaissant, Perrine espérait qu'elle ne découvrirait jamais qu'elle utilisait un arc d'enfant. Bien trop têtue pour l'admettre, elle était néanmoins incapable d'armer un arc long de 2 rivières. Après avoir ajusté la position de sa hache pour qu'elle n'appuie pas contre son flanc, Perrine tenta de se focaliser sur le sujet dont il débattait avec les hommes assis autour de la même table que lui. Ses interlocuteurs non plus n'étaient pas tous très concentrés, mais ce n'était pas une raison.
« Les femmes ont des lampes !»
marmonna Sen.
« Et nous, on doit faire avec du suif !»
Fidèle à sa légende de mauvais coucheur, le vieil homme foudroya du regard le chandelier et ses 2 misérables bougies.
« Laisse tomber, Sen !»
soupira Tam en sortant sa pipe et sa blague à tabac.
« Pour une fois, n'en fais pas toute une affaire. Si nous devions lire ou écrire, »
dit Abel d'un ton plutôt impatient,
« nous aurions aussi des lampes. »
Le bandage qui enveloppait la tête du père de Matt ne le disposait probablement pas à l'indulgence. Sans doute pour rappeler au vieux couvreur qu'il était le bourgmestre, Bran remit bien droit le médaillon qui pendait sur sa poitrine.
« Concentre-toi sur les affaires en cours, Sen. Je refuse que l'un de vous fasse perdre son temps à Perrine. »
« Je pense qu'on devrait avoir des lampes, »
insista Sen.
« Et si je lui faisais perdre son temps, Perrine me le dirait. »
Perrine exhala un long soupir. Ses paupières pesaient des tonnes, et il aurait donné cher pour que ce soit au tour de quelqu'un d'autre de représenter le conseil. Aral Luhan, John Tain, Samuel Crow. Bref, tous les candidats possibles, sauf l'insupportable Sen. Cela dit, son rêve, hélas irréalisable, aurait été qu'un de ces hommes mûrs se tourne vers lui et déclare
« Ce sont les affaires du bourgmestre et du conseil, fiston. File jouer du marteau devant ton enclume et nous te ferons connaître tes ordres. »
Bien loin de là, tous s'inquiétaient de lui faire perdre son temps, ce qui ne les empêchait pas d'en référer à lui pour tout et n'importe quoi. Son temps? Depuis la première attaque, une semaine plus tôt, combien en avait-il eu? Il avait lui-même fini par perdre le compte. Voir un bandage autour de la tête d'Abel le mettait hors de lui. Mais les Aes Sedai n'intervenaient plus que sur les blessés graves, laissant les autres se débrouiller seuls. Pourtant, il n'y avait pas tant de cas graves que ça. Mais comme Verin l'avait sèchement fait remarquer, même les Aes Sedai avaient des limites. Apparemment, préparer les pierres des catapultes les fatiguait beaucoup. Dans cette occurrence très particulière, Perrine regrettait que les Aes Sedai aient des limites. Car s'il n'y avait pas beaucoup de blessés graves pour l'instant, ça risquait de ne pas durer.
Et où en sommes-nous avec les flèches?
C'était ça, le sujet de la conversation.
« Eh bien, on ne peut pas se plaindre, »
répondit Tam en allumant sa pipe avec une des bougies.
« On récupère pratiquement toutes celles qu'on tire, le jour en tout cas. La nuit, les trollocs ont tendance à venir chercher leurs morts, sans doute pour alimenter leurs chaudrons. Ces projectiles-là sont donc perdus. »
Les autres hommes étaient aussi en train de sortir ou de bourrer leurs pipes. Sen, lui, pleurnichait parce qu'il avait, disait-il, oublié sa blague à tabac. Son crâne chauve luisant la lumière du chandelier, Bran lui passa la sienne en grommelant. Perrine se massa le front. Quelle question avait-il eu l'intention de poser ensuite? Les pieux. Désormais, la plupart des combats se déroulaient juste devant cette ligne de défense. Combien de fois les monstres y avaient-ils ouvert une brèche? 3? 4?
Chacun est-il muni d'une lance ou d'une autre arme dotée d'une hampe? Pouvons-nous en fabriquer d'autres?
Étonné par le silence qui suivit sa question, Perrine s'avisa que tous ses interlocuteurs le dévisageaient.
Tu as déjà demandé ça hier,
répondit patiemment Abel.
Et Aral t'a répondu que toutes les faux et les fourches ont été reconverties en armes. Pour le moment, nous en avons trop.
Oui, oui, je me souviens. Mais ça m'était sorti de l'esprit.
Un fragment de phrase prononcé à la table des femmes attira l'attention de Perrine.
Il faudrait en informer les hommes,
venait de dire Marine, comme si elle répétait quelque chose qui était déjà venu dans la conversation.
Bien sûr que non,
affirma Daze, elle aussi à mi-voix.
Si ces idiots découvrent que nous nous rationnons, ils voudront nous imiter. Et nous ne pouvons pas les laisser faire.
Perrine ferma les yeux et tenta de ne plus rien entendre. Daze avait raison. Parce qu'ils se battaient, les hommes avaient besoin de reconstituer leurs forces. Les deux Aiel et Fail faisaient exception à cette règle, bien sûr, mais au moins, sa compagne avait le bon sens de rester à l'écart quand on en venait au corps à corps au milieu des pieux. C'était exactement pour ça qu'il lui avait déniché un arc. Cette femme avait un cœur de lionne et plus de courage que deux hommes.
« Tu devrais filer au lit, Perrine, »
suggéra Bran.
« Si tu continues à dormir une heure de ci, de là, tu n'iras pas bien loin. »
Perrine se gratta la barbe avec ce qu'il espéra faire passer pour une mâle vigueur.
« Je dormirai plus tard, quand ce sera fini. Les hommes se reposent-ils assez ? J'en ai vu monter la garde alors qu'ils auraient dû... »
La porte principale s'ouvrit soudain pour laisser entrer le très mince Danil Lewin. Arc au poing, très excité, il portait à la hanche une des épées du tonneau. Quand il avait le temps, Tam assurait la formation des Bleus et un des champions lui donnait parfois un coup de main. Avant que Danil ait pu ouvrir la bouche, Daze lui lança.
« As-tu grandi dans une étable, Danil Lewin ? Tu pourrais effectivement manifester plus d'égards à ma porte. »
Renchérit Marin Alvéré. Une façon également de rappeler à Daze qui était chez qui.
« Je m'excuse, maîtresse Alvéré, »
fit Danil, la tête rentrée dans les épaules.
« Et veuillez me pardonner, sage-dame. Désolé de cette intrusion, mais j'ai un message pour Perrine. »
Comme s'il craignait que les femmes lui mettent encore des bâtons dans les roues, il se précipita vers la table des hommes.
« Les capes blanches nous ont amené un homme qui veut te parler. À toi et à personne d'autre. Ce type est grièvement blessé, et les fils l'ont laissé à l'entrée du village. Si on tente de le transporter jusqu'ici, il ne survivra pas. »
Perrine se leva.
« Je viens. »
Au moins, il ne s'agissait pas d'une attaque. La nuit, c'était encore pire. Fail prit son arc et rejoignit son compagnon avant qu'il ait atteint la porte. Au pied de l'escalier, dans les ombres, Aram se leva aussi et hésita. Très souvent, Perrine oubliait la présence du Zingaro, tant il se tenait tranquille. Avec sa veste à rayures jaunes et son épée dans le dos, il avait vraiment une drôle d'allure. Sans parler de son visage fermé, très inhabituel chez les membres de son peuple. Depuis le jour où il s'était emparé d'une épée, Raen et Ila ne lui avaient plus adressé la parole. Et Perrine avait eu droit au même traitement.
« Si tu veux venir, bouge-toi »
lança l'ancien apprenti forgeron. Aram lui emboîta le pas. Depuis des jours, il le suivait comme son ombre, sauf quand il harcelait Tam, Yvonne ou Thomas pour qu'il lui donne des cours d'escrime. On aurait pu croire que Perrine, désormais, remplaçait sa famille et ses amis défunts. Une responsabilité dont le jeune homme se serait bien passé, mais il n'avait pas eu le choix. Alors que les rayons de lune se reflétaient sur les toits de chaume, presque toutes les maisons n'avaient qu'une fenêtre éclairée. Dans la nuit, une trentaine de compagnons montaient la garde devant l'auberge. Tout le monde avait adopté ce nom, même Perrine, qui se surprenait souvent à l'utiliser et qui s'en voulait beaucoup pour ça. S'il y avait des gardes autour de l'établissement de Maître Alvéré, ou de tout autre endroit où était Perrine, c'était à cause du camp qui s'étendait désormais sur la place verte, où les moutons et les vaches se faisaient de plus en plus rares. Au-delà du mât où l'absurde étendard à la tête de loup battait d'habitude au vent, mais pas ce soir, car il n'y avait pas un souffle d'air, d'autres sentinelles surveillaient le périmètre, leurs capes claires visibles à la lueur de la lune. Aucun habitant n'avait voulu héberger les fils de la lumière dans sa demeure, de toute façon déjà pleine à craquer. Rien de bien grave, puisque Bornald refusait que ses hommes se séparent. À l'évidence, il pensait que les villageois se retourneraient tôt ou tard contre eux, car dans sa logique, puisqu'ils obéissaient à Perrine, c'étaient tous des suppôts. Malgré sa vue hors du commun, Perrine n'aurait pas pu identifier le visage des hommes assis autour des feux de camp. Mais il sentait peser sur lui le regard haineux de Dane. Danil sélectionna 10 compagnons pour qu'ils escortent Perrine. Tous de très jeunes gens qui auraient dû être en train de faire la fête avec lui. Aram ne se joignit pas à ce groupe, car il ne quittait jamais Perrine d'un pouce. Imitant le Zingaro, Fail marchait à côté de son protégé, sondant l'obscurité comme si elle était la seule personne au monde dont dépendait sa vie. À l'endroit où l'ancienne route entrait dans le village, on avait retiré les chariots afin de laisser passer une patrouille de 20 fils de la lumière qui attendaient sur leur monture et se montraient au moins aussi impatients qu'elle. De fait, ils étaient exposés à la vue de tous, et les Trollocs y voyaient aussi bien dans le noir que Perrine. Pourtant, les fils insistaient pour continuer à patrouiller. Dans quelques cas, ils avaient pu prévenir le village d'une attaque, et leur tactique de harcèlement déstabilisait peut-être un peu les Trollocs. Perrine aurait cependant apprécié qu'on le prévienne qu'une opération était en cours, avant qu'elle soit terminée. Un petit groupe de villageois munis d'armes et d'équipements de fortune formait un cercle autour d'un homme en tenue de fermier allongé sur le bas-côté de la route. Ils s'écartèrent pour laisser passer Perrine et Feil, le jeune homme s'agenouillant aussitôt près du blessé. L'odeur du sang le prit à la gorge. Le visage lustré de sueur, le moribond avait une énorme flèche trolloque fichée dans la poitrine.
« Perrine, yeux jaunes !»
gémit-il.
« Je dois voir, Perrine, yeux jaunes !»«
Quelqu'un a envoyé chercher une Aes Sedai ?»
demanda Perrine. Alors qu'il soulevait délicatement la tête du blessé, la posant sur ses genoux, il ne prit pas le temps d'écouter la réponse. Ce malheureux ne vivrait pas assez longtemps pour qu'une Aes Sedai puisse intervenir.
« Je suis Perrine. Yeux jaunes. Je n'y vois plus très bien. »
Un euphémisme. Les yeux de l'homme étant rivés sur le visage du jeune homme, il aurait dû voir les deux petits soleils nichés dans ses orbites.
« Oui, Perrine yeux jaunes. »
confirma à contre-cœur l'ancien apprenti forgeron. L'homme le saisit par le col et le tira vers lui avec une force surprenante.
« Nous venons envoyer pour te dire nous. »
La tête du blessé retomba et ses yeux morts ne fixèrent plus rien du tout.
« Que la lumière soit avec son âme !»
murmura Feil en accrochant son arc dans son dos. Après un long moment, Perrine ouvrit de force les mains du mort et se dégagea.
« Quelqu'un le connaissait ? »
demanda-t-il. Les villageois secouèrent tous la tête.
« A-t-il dit quelque chose pendant que vous l'ameniez ici ?»
lança Perrine au fils de la lumière.
« Pour commencer, où l'avez-vous trouvé ?»
Jared Billard baissa sur Perrine son visage émacié où brillaient des yeux plus glaciaux que la mort. Les autres capes blanches évitaient le regard du jeune homme. Billard, lui, le recherchait, surtout la nuit, quand la lueur jaune était plus intense.
« Créature des ténèbres !»
marmonna l'officier avant de talonner son cheval. La patrouille partit vers le village comme si elle était aussi pressée de fuir Perrine que de s'éloigner des trolloques. Une main sur la poignée de son épée, dans son dos, Aram regarda passer les soldats, le visage de pierre.
« Ils l'ont trouvé à une lieue d'ici !»
dit Danil.
Selon eux, les trolloques se sont divisés en une multitude de petites meutes. Ils vont peut-être renoncer.
Perrine reposa l'inconnu sur le sol.
Nous venons.
Doublez la garde,
dit-il.
Une famille qui s'est longtemps accrochée à sa terre va peut-être arriver.
Je doute que quiconque ait pu survivre si longtemps au milieu des trolloques, mais qui sait?
Surtout ne criblez pas quelqu'un de flèche par erreur.
Perrine vacilla sur ses jambes. Discrètement, Feil lui prit un bras pour le soutenir.
« Il faut aller au lit, Perrine. Tu as besoin de sommeil. »
Perrine regarda sa compagne. Il aurait dû s'arranger pour qu'elle reste à Théar. S'il avait réfléchi dans la bonne direction, il aurait pu trouver une astuce. Un des messagers, un gamin frisé qui arrivait à la taille d'un adulte normal, entra dans le cercle et vint tirer Perrine par la manche. Le jeune homme ne le reconnut pas, mais ça n'avait rien d'étonnant avec un tel afflux de réfugiés.
« Seigneur Perrine, il y a du mouvement dans le bois de l'Ouest. » On m'a chargé de vous prévenir.
Ne m'appelle pas comme ça, et ne me vouvoie pas.
S'il laissait faire les enfants, les compagnons ne tarderaient pas à s'y mettre aussi.
Va dire aux gens qui t'envoient que j'arrive.
Ta place est au lit,
objecta Feil.
Thomas se chargera très bien d'une attaque.
Le gamin n'a pas parlé d'une attaque, mais de mouvement. Et en cas d'assaut, quelqu'un aurait sonné l'alarme avec le bugle de Seine.
Feil s'accrocha au bras de Perrine et le tira vers l'auberge. Mais elle fut entraînée dans la direction opposée, car elle n'était pas de taille à lutter contre le jeune homme. Au bout de quelques minutes, elle renonça et fit mine de lui avoir simplement tenu le bras. En revanche, elle marmonna entre ses dents, comme si elle continuait à croire qu'il ne l'entendait pas. Commençant par un « crétin sans appel », elle enchaîna sur une « tête de pioche » et passa à un « cerveau gros comme un pois chiche ». Après ses amuse-gueules, ce fut l'escalade, et Perrine préféra fermer ses écoutilles. Avec Feil à son bras, Aram sur ses talons, et 10 compagnons dirigés par Danil lui faisant une garde d'honneur, Perrine aurait facilement pu passer pour un roi. Moins fatigué, il aurait sûrement eu l'impression d'être un parfait imbécile. Le long de la ligne de pieux, des sentinelles étaient postées à intervalles réguliers, chacune disposant d'un très jeune messager. Mais à la lisière ouest du village, les gardes étaient tous massés derrière la barrière de pieux. Les yeux rivés sur le bois de l'ouest, ils attendaient la tempête. Avec sa cape caméléon, Thomas disparaissait parfois de la vue. Bane et Shiad accompagnaient le champion. Bizarrement, depuis le départ de Loyal et de Gaul, elles avaient passé toutes les nuits à Champ des Mondes.
« Je ne t'aurais pas dérangé,
dit le champion.
Mais nous ne voyons rien, et avec tes yeux.
Perrine acquiesça. Tout le monde savait qu'il avait une acuité visuelle hors du commun, en particulier dans le noir. Les gens de Deux-Rivières semblaient penser que ça faisait de lui un imbécile de fichu héros. Les Aes Sedai et les champions, eux, eh bien, ils ignoraient ce qu'ils en pensaient, et ils s'en fichaient. 7 jours, et combien d'attaques? Une telle fatigue pouvait-elle vraiment exister? La lisière du bois était à 500 pas de là. Même pour ses yeux, il n'y avait pas grand-chose à voir. Encore que... un mouvement. Une silhouette assez grande pour être celle d'un trolloque. Un géant qui portait... Le fardeau leva un bras. C'était un humain. Un géant qui portait un humain.
« Nous n'allons pas tirer !»
cria Perrine, si content qu'il éclata de rire.
« Allons, approche, loyal !»
La silhouette émergea du bois et courut vers le village. C'était bien loyal, et il portait Gaul. Des hommes de Deux-Rivières lui crièrent des encouragements, comme s'ils disputaient une course.
« Plus vite, Augier ! Plus vite !
Plus vite, Augier ! Plus vite !
Plus vite, Augier ! Plus vite !»
Quand il aborda la barrière de pieux, Loyal dut ralentir, car il ne lui fut pas facile du tout de zigzaguer entre les obstacles. Une fois la traversée terminée, il posa la hielle à terre et se laissa tomber à côté de lui, le souffle court et les oreilles en berne. Se relevant, Gaul boitilla sur une jambe, puis se rassit. Bane et Chiad se précipitèrent et s'affairèrent sur sa cuisse gauche, écartant sa jambe de pantalon déchirée et poisseuse de sang. Son carquois vide, le guerrier n'avait plus que 2 lances. Et Loyal avait perdu sa hache.
« Mon vieil imbécile d'Augier !»
s'écria joyeusement Perrine.
« M'avoir faussé compagnie comme ça, je devrais autoriser Dace Kongar à te donner la badine. Mais tu es vivant, et c'est déjà ça. Vivant et de retour.
À Champ des Mondes, qui n'est pas l'endroit le plus sûr du monde. »«
Nous avons réussi, Perrine. »
halta Loyal.
« Il y a 4 jours, nous avons fermé le portail. » Il faudra les anciens ou une Aes Sedai pour le rouvrir.
Il m'a porté sur presque tout le chemin du retour,
annonça Gaul.
5 trolloques et 1 blafard nous ont poursuivis les 3 premiers jours. Mais il les a semés.
Sans grand succès, le guerrier tenta d'écarter les promises de sa jambe.
Tiens-toi tranquille, Charad,
grogna Chiad.
Ou je dirais que je t'ai touché en étant armé. Ce qui t'autorisera à choisir la façon de défendre ta vertu et ton honneur.
Fail eut un rire de gorge. Perrine ne comprit pas un traître mot à la remarque, mais il nota que la hielle en était tout déconfit, au point de se laisser soigner par les promises.
« Tu es blessé, Loyal ?»
s'inquiéta Perrine. Se relevant péniblement, Logier oscilla quelques instants comme un arbre qui va tomber, puis il se stabilisa, mais ses oreilles restèrent en berne.
« Non, pas blessé, mon ami. Fatigué, c'est tout. Ne t'en fais pas pour moi. C'est comme ça... quand on reste trop longtemps loin de son sanctuaire. Un séjour dans un autre ne suffit pas. »
Secouant la tête comme s'il avait conscience de s'égarer, Loyal posa une main sur l'épaule de Perrine.
« Après une bonne nuit de sommeil, il n'y paraîtra plus. »
Il baissa la voix. Pour un Augier, un murmure équivalait au ton normal d'un être humain.
« Nous ne rapportons pas de bonnes nouvelles, Perrine. Nous avons fermé le portail, certes, mais il doit y avoir plusieurs milliers de trolloques sur le territoire. » Et une 50aine de Myrdral.
Pas du tout!
S'écria Luc, qui venait d'arriver au galop de la route du Nord, son étalon noir se cabrant spectaculairement lorsqu'il le força à s'arrêter.
Tu es sans doute très doué pour chanter devant les arbres, Augier, mais combattre les trolloques demande d'autres compétences. J'estime qu'il reste moins de 1000 monstres. Une force considérable, bien sûr, mais rien que des défenses solides et des hommes courageux ne sauraient repousser.
Un autre trophée pour toi, Seigneur Périgne Jaune!
En riant, Luc lança un gros sac de toile au jeune homme. Un sac au fond poisseux de sang. Perrine attrapa le trophée au vol et, malgré son poids, le lança très au-delà de la barrière de pieux. Le seigneur lui apportait des présents toutes les nuits, comme s'il s'attendait toujours à les voir exposés. Une bande de Coplines et de Kongar, il fallait l'avouer, avait donné un festin pour lui le soir où il avait déboulé avec 2 têtes de blafards.
« Suis-je aussi un ignare en matière de combat ?»
demanda Gaul en se relevant.
« Il y en a des milliers, et c'est moi qui le dis. »
Luc eut un sourire méprisant.
« Combien de jours as-tu passé dans la flétrissure, Aiel ? Moi, je les compte par dizaines. »
Un sourire ou un rictus ?«
Yeux jaunes, crois qui tu veux. Les jours infinis apporteront ce qu'ils apporteront.
ainsi qu'ils le font depuis toujours. Faisant tourner Bride à sa monture, en la forçant à se cabrer, bien entendu, Luc se lança au galop le long des maisons et des arbres qui se trouvaient naguère face à l'orée du bois de l'Ouest. Les hommes de Deux-Rivières, gênés, le regardèrent s'éloigner ou firent mine de sonder le périmètre.
« Il se trompe, »
dit Loyal.
« Gaul et moi, nous savons ce que nous avons vu. »
Le teint grisâtre, Laugier paraissait avoir du mal à tenir debout. Rien de bien surprenant après avoir porté Gaul 3 jours durant.
« Tu as fait du très bon travail, Loyal, »
dit Perrine.
« Et toi aussi, Gaul. Un grand succès. J'ai peur que l'auberge ait été prise d'assaut. Mais maîtresse Alvéré te trouvera sûrement une paillasse. Il est temps que tu rattrapes ton sommeil en retard. »«
Et il n'est pas le seul dans ce cas, Perrine Aibara, »
déclara Fail, des nuages passant devant la lune faisant jouer sur son visage des ombres énigmatiques. Elle était si belle. Mais son ton n'incitait hélas pas au romantisme.
« Si tu ne me suis pas, je demanderai à Loyal de te porter. Et contre lui, tu ne feras pas le poids. »
Gaul, ayant du mal à marcher, même lentement, Bane vint le soutenir d'un côté. Bien entendu, il tenta d'empêcher Chiad de se charger de l'autre côté, mais la promise murmura un mot, quelque chose comme « Gaishine », qui fit éclater sa collègue de rire et qui força le guerrier à une capitulation sans condition, même s'il marmonna d'abondance dans sa barbe. Quel que soit le filet qu'avaient tendu les promises, le pauvre Gaul semblait bien être empêtré dedans.
« En route, mon gars !»
lança Thomas en tapant sur l'épaule de Perrine.
« Tout le monde a besoin de dormir. »
Une drôle de déclaration pour un homme qui semblait décidé à ne pas fermer l'œil avant 3 jours. Perrine capitula lui aussi. Il se laissa donc guider vers l'auberge par Fail, Loyal et les Aiel dans leur sillage, sans oublier Aram, Danil et les 10 compagnons omniprésents. Incapable de dire quand les autres le quittèrent, le jeune homme se retrouva néanmoins seul dans sa chambre en compagnie de Fail.
« Beaucoup de familles ont moins de place que moi, »
maugréa-t-il. Une bougie brûlait sur le manteau de la cheminée. Bien des hôtes devaient s'en passer, mais Marine en allumait une dans cette chambre dès que la nuit tombait.
« Je peux dormir dehors avec Danil, Ban et les autres.
Ne sois pas stupide. Si Alana et Vérine ont chacune une chambre, tu dois être traité comme elles. »
Perrine s'avisa que la jeune femme lui avait retiré sa veste et qu'elle s'attaquait au lacet de sa chemise.
« Je ne suis pas trop fatigué pour me déshabiller seul, »
protesta-t-il. Sur ces mots, il poussa gentiment la jeune femme dehors.
« Tu enlèveras tout, c'est compris ? Contrairement à ce que tu penses, on ne peut pas bien dormir tout habillé.
Tout, c'est juré. »
Quand il eut refermé la porte, Perrine retira ses bottes, souffla la bougie et se coucha. Marine n'aurait pas aimé qu'il remplisse de boue sa literie. Des milliers de trolloques selon Loyal et Gaul. Mais combien en avait-il vraiment vu alors qu'il se cachait dans les montagnes, tentant de rallier le village? D'après Luc, il restait moins de 1000 monstres. Malgré ses fichus trophées, ou à cause d'eux, Perrine ne pouvait pas faire confiance à ce paltoquet. Les fils de la lumière affirmaient que l'ennemi s'était dispersé. Mais avait-il vraiment pu l'espionner, avec leur armure brillante et leur cape blanche qui les annonçait une lieue à la ronde? Perrine avait un moyen de vérifier par lui-même. Depuis assez longtemps, il avait évité le rêve du loup. Dès qu'il envisageait d'y retourner, le désir de traquer tueur se réveillait et son devoir l'obligeait à rester à Champ des Mondes. Mais pour une si bonne cause. Quand le sommeil s'empara de lui, le jeune homme hésitait toujours. Sous un ciel où dérivaient quelques nuages, alors que le soleil descendait déjà vers l'ouest, Perrine était sur la place verte déserte. Pas l'ombre d'une vache ou d'un mouton autour du mât où l'étendard à la tête de loup se laissait paresseusement caresser par la brise. Alors qu'une grosse mouche volait à côté de sa tête en bourdonnant, le jeune homme constata qu'il n'y avait pas âme qui vive non plus dans les rues ni aux fenêtres des maisons aux toits de chaume. Sur la place, de petits tas de bois secs sur un lit de cendre marquaient l'emplacement des feux de camp des capes blanches. Dans le rêve du loup, Perrine avait rarement vu quelque chose en train de brûler. En général, on y apercevait des feux qui allaient prendre ou le résultat carbonisé d'un incendie. Quand il leva les yeux pour voir si des corbeaux tournaient au-dessus du village, là encore pas l'ombre d'un oiseau, un carré de ciel devint une fenêtre ouverte sur un autre lieu. Le regard brouillé par la peur, Egwene se tenait au milieu d'une foule de femmes qui s'agenouillaient les unes après les autres. Nineveh était du nombre, et le jeune homme crut reconnaître Elaine à sa chevelure d'un blond tirant sur le roux. Puis cette fenêtre s'effaça, cédant la place à une autre. Nu comme un ver et saucissonné de la tête aux pieds, Matt montrait hargneusement les dents. Une étrange lance à la hampe noire était glissée en travers de son dos sous ses coudes, et un médaillon d'argent, une tête de renard, pendait sur sa poitrine. Le plus grand flambeur de Champ des Mondes disparut, et Rand se matérialisa à sa place. Enfin, quelqu'un qui lui ressemblait. Vêtu de haillons, une cape mitée sur les épaules, il avait un bandage sur les yeux. Cette vision se dissipa et le ciel redevint normal. Perrine frissonna. Les visions qu'il avait dans le rêve du loup semblaient n'avoir aucun rapport avec la réalité. Peut-être parce qu'en ces lieux, où tout pouvait changer si facilement, l'inquiétude qu'il éprouvait pour ses amis réussissait en quelque sorte à prendre corps. Mais quelle que soit l'explication, s'apesantir sur ces images était une perte de temps. Perrine ne fut pas étonnée de constater qu'un gilet de forgeron protégeait sa poitrine nue. Portant une main à sa ceinture, il y trouva son marteau et pas sa hache. Troublé, il se concentra sur l'arme au tranchant en demi-lune surmontée d'une pique. C'était l'arme dont il avait besoin, celle du guerrier qu'il était devenu. Le marteau se transforma lentement, comme à contre-cœur, et quand la hache l'eut enfin remplacée, le métal continua à briller comme celui de la tête du marteau. Pourquoi cette résistance acharnée ? Perrine savait très exactement ce qu'il voulait. Un carquois plein apparut à côté de sa hache, un arc se matérialisa dans sa main et un bracelet d'archer enserra soudain son poignet gauche. Trois pas suffirent au jeune homme pour gagner l'endroit où se dressait un cantreloque à environ une lieue du village. Alors que les contours du monde s'étaient brouillés durant ce trajet, l'ultime enjambée conduisit Perrine dans un champ d'orge saccagé, où il découvrit une bonne dizaine de grands tas de bois, là encore sur un lit de cendres, composé de troncs d'arbres, de pieds de fauteuils et de tables, et même d'une porte de grange. À côté, de grands chaudrons noirs attendaient d'être accrochés au-dessus de ces feux de cuisson. Des chaudrons vides, bien sûr. Même si Perrine savait très bien ce qui finirait par y mijoter. Les morceaux les plus tendres étant destinés aux grandes broches suspendues sur des trépieds au-dessus de certains feux. Combien de trollocs ces cuisines de campagne étaient-elles en mesure de nourrir? Ici, les tentes étaient inconnues, et les couvertures puantes éparpillées sur le sol n'étaient pas un indicateur fiable. La plupart des trollocs dormaient à même le sol, sans rien pour les couvrir. Et certains se creusaient même une tanière pour la nuit. Optant pour de plus petites enjambées, environ 100 pas chacune, Perrine fit le tour de Champ des Mondes. À cette vitesse, le décor était simplement un peu flou, ce qui lui permit d'inspecter rapidement les fermes, les pâturages et les champs de céréales ou de tabac. Des feux de cuisson partout. Voilà ce qu'il découvrit. Des centaines au minimum, peut-être plus d'un millier. Donc, il y avait bien plusieurs milliers de trollocs sur le territoire. Moins de 10 000? Plus? S'ils attaquaient tous en même temps, ça ferait bien peu de différence pour les défenseurs. Plus loin au sud, les traces des monstres disparaissaient. Il restait quelques fermes intactes, mais vraiment pas beaucoup, et la majorité des champs avaient été incendiés, piétinés ou dévastés à grands coups d'épée. Sans raison particulière, puisque les fermiers étaient partis depuis longtemps, sinon la jubilation mauvaise de la destruction. Durant sa patrouille, Perrine traversa un champ de cendres où il repéra des cercles de roues en fer encore intacts. Tout ce qui restait de la caravane des Zingari. Plus encore que les fermes, cette vision lui serra le cœur. Le paradigme de la feuille aurait dû avoir une chance d'être respecté. Il en aurait une un jour, c'était certain, mais pas à deux rivières. Trop remué par ce spectacle, Perrine bondit de près d'un quart de lieue vers le sud. De bond en bond, il arriva à Promenade de Devenne. Comme à Champ des Mondes, des maisons aux toits de chaume entouraient un vaste terrain communal et un grand abreuvoir alimenté par une source protégée par une margelle de pierre, munie de fentes que le passage du temps et l'usure avaient élargies. Ici, la seule et unique auberge avait un toit de chaume. Baptisée Loi et la Pipe, elle était cependant plus grande que l'auberge de la Cascade à Vin. Un détail curieux, puisque Promenade de Devenne, un village plus petit que Champ des Mondes, recevait encore moins de visiteurs. Les charrettes et les chariots rangés devant toutes les maisons témoignaient d'un afflux massif de réfugiés. D'autres véhicules bloquaient toutes les rues et les espaces entre les demeures. Des défenses qui se seraient révélées insuffisantes contre une seule des innombrables attaques subies par Champ des Mondes dans 7 jours. Perrine fit 3 fois le tour du village et repéra 6 camps de trollocs. Largement ce qu'il fallait pour dissuader les gens de sortir du périmètre plus ou moins sécurisé. La stratégie était claire. Immobiliser ces villageois-là jusqu'à ce que Champ des Mondes soit tombé. Puis, selon le bon vouloir des blafards, lancer une attaque massive sur ce deuxième objectif. Inquiet, Perrine se demanda s'il était possible de prévenir les habitants et les réfugiés. S'il filait vers le sud, il parviendrait peut-être à traverser la rivière Blanche. Plutôt qu'attendre passivement la mort, il valait encore mieux s'enfoncer dans la forêt des ombres, quitte à s'y égarer. Le temps passant différemment dans le rêve du loup, le soleil n'avait pas bougé d'un iota dans le ciel. Courant le plus vite possible, Perrine repassa devant Champ des Mondes sans même le voir, puis il atteignit Colline de la Garde. Comme à Promenade de Devenne, les chariots et les charrettes abondaient, et les villageois s'en étaient également servis pour ériger des défenses. Ici, au sommet de la butte, un étendard flottait au vent en haut d'un mât, devant l'auberge du sanglier blanc. Un aigle rouge flottant sur un champ de ciel bleu. L'ancien emblème de Manéthérène. Durant leur séjour au village, Alana et Vérine avaient-elles raconté de très anciennes histoires? Là aussi, Perrine trouva le nombre de camps ennemis suffisant pour assiéger et immobiliser les villageois. Mais ici, il y avait une voie d'évasion bien plus facile que la traversée de la rivière Blanche, toujours redoutable avec ses impitoyables rapides. Continuant vers le nord, Perrine atteignit Bac-sur-Tarenne, sur les berges de la Tarendrelle. La rivière Tarenne, ainsi qu'il avait appris à la nommer durant son enfance. Ici, les hautes et étroites maisons étaient surélevées, afin de ne pas être endommagées par les crues régulières de la rivière au moment de la fonte des neiges dans les montagnes de la Brume. Désormais, plus de la moitié des fondations de pierre supportaient des tas de cendres et des poutres carbonisées. Ici, pas de chariots ni de défense. Perrine ne trouvant pas un seul camp de Trollocs, il supposa qu'il n'y avait pas d'humains survivants non plus. Au bord de l'eau, près d'un embarcadère, une grosse corde attachée à un solide poteau traversait la rivière au flot tumultueux pour aller s'arrimer à un autre poteau sur la berge d'en face. Le système de halage du bac. Quant au bac lui-même, il était toujours là, parfaitement intact. D'un bond, Perrine traversa la rivière. Sur cette berge, il trouva des ornières de chariots et un véritable cimetière d'objets quotidiens. Des sièges, des miroirs, des coffres, quelques tables et même une armoire polie avec des oiseaux sculptés sur les portes. Des trésors que les villageois paniqués avaient tenté d'emporter, puis qu'ils avaient abandonnés pour avancer plus vite. Ces fugitifs feraient savoir partout ce qui arrivait à Deux-Rivières. Certains devaient déjà avoir atteint Berlonne, à une cinquantaine de lieues de là, et ils avaient sûrement alerté tous les fermiers qui résidaient entre la rivière et la ville. Encore un mois, et les mauvaises nouvelles arriveraient à Kemlin, où vivait la reine Morgaz, une femme capable de lever une armée et de mobiliser sa garde royale. Un mois, et autant pour venir ici, à partir du moment où Morgaz se serait décidé. Trop tard pour Chandemonde. Et probablement pour tout le territoire de Deux-Rivières. Malgré tout, il semblait absurde que les Trollocs aient permis à des gens de s'enfuir. Enfin, les Myrdraal plutôt, parce que les Trollocs, eux, ne voyaient pas plus loin que le bout de leur groin ou de leur bec. Mais pourquoi les Blafards n'avaient-ils pas ordonné qu'on détruise le bac? Comment pouvait-il être sûr qu'il n'y avait pas assez de soldats à Berlonne pour lancer une contre-attaque? Perrine se pencha pour ramasser une poupée au visage de bois peint. Une excellente idée, puisqu'une flèche siffla juste au-dessus de sa tête. Bondissant sur la berge dans le bois attenant, il se cacha derrière un grand chêne. Autour de lui, des buissons, des entrelacs de lianes et des arbres souvent malmenés par les crues composaient un épais rideau de végétation.
« Tueur ! Tueur !»
S'avisant qu'une flèche était encochée dans son arc, Perrine se demanda s'il l'avait sorti de son carquois ou invoqué mentalement.
« Tueur !»
Alors qu'il allait bondir de nouveau, Perrine se ravisa. Tueur devait savoir en gros où il était. N'avait-il pas lui-même très facilement suivi des yeux la silhouette floue de son agresseur? Quand on se tenait tranquille, c'était assez facile. En deux occasions, il avait joué le rôle actif et failli perdre. Eh bien, autour de Tueur ce coup-ci. Et à lui d'attendre sa proie. Des corbeaux volaient en rasant la cime des arbres à la recherche de Perrine. Mais il ne fit pas un geste susceptible de le trahir. Pas un mouvement. À part celui de ses yeux qui scrutaient la forêt. Quand une odeur froide et pourtant humaine, tout en ne l'étant pas, arriva à ses narines, le jeune homme sourit. Tendant l'oreille, il n'entendit cependant aucun bruit, à part celui des ailes des corbeaux. Et leurs cris de plus en plus nerveux. Tueur était un sacré bon éclaireur, mais il n'avait pas l'habitude d'être le gibier au jeu de la vie et de la mort. À part l'odeur, quel autre détail allait-il oublier? À coup sûr, il n'imaginerait pas que Perrine était restée là où l'avait amené son premier bond. Devant un chasseur, tous les animaux s'enfuyaient. Même les loups, quand c'était à eux qu'on donnait la chasse. Un mouvement à quelques 50 pas de là. Un instant, un visage apparut au-dessus d'un pin abattu par les flots. Les rayons du soleil, perçant de-ci de-là la frondaison, illuminèrent parfaitement les cheveux noirs et les yeux bleus d'un homme au visage de pierre, rien que des plats et des angles, pas de courbes, qui ressemblaient tellement à l'âne. Sauf que Tueur, en l'espace d'une ou deux secondes, se passa deux fois la langue sur les lèvres. Sous son front plissé, ses yeux sondaient les alentours avec un rien de nervosité. Même seul contre 1000 Trollocs, l'âne n'aurait jamais trahi ainsi son inquiétude. Le visage disparut en un éclair. Au-dessus des arbres, les corbeaux s'affolaient comme si l'angoisse de Tueur était contagieuse. Prudent, les oiseaux hésitaient à s'aventurer sous la ligne des arbres. Perrine attendit, parfaitement immobile, car l'odeur lui indiquait qu'il n'était pas seul avec les corbeaux qui tournaient au-dessus de sa tête. Tueur se montra de nouveau. Tapi derrière un chêne, il voulut voir ce qu'il y avait devant lui et ne réussit pas à être assez rapide. 30 pas. Les chênes tuant impitoyablement tous leurs concurrents végétaux, il n'y avait que quelques plaques de mousse au pied du grand arbre. Faute de buissons ou d'arbustes pour le dissimuler, Tueur se montra au grand jour pour la première fois. Perrine lâcha immédiatement sa flèche. Mais un corbeau cria pour prévenir son maître, et Tueur s'écarta assez pour que le projectile se fige dans sa poitrine, mais sans lui traverser le cœur. Hurlant de douleur, il saisit la hampe de la flèche à deux mains. Les corbeaux battant frénétiquement des ailes, des plumes noires tombèrent en pluie sur la scène. Puis les contours de Tueur se brouillèrent, son cri mourut, et il se volatilisa. Les corbeaux disparurent aussi, leur croassement semblant comme suspendu dans l'air. La flèche tomba sur le sol. Perrine relâcha doucement la corde de son arc, où était encochée une autre flèche, et exhala un long soupir. C'était ainsi qu'on mourait dans le rêve du loup? On disparaissait et c'était à jamais fini?
En tout cas, pour lui, c'est bel et bien terminé.
Certes, mais il n'était pas venu pour ça. Au moins, les loups n'auraient plus rien à craindre. Et ils n'étaient peut-être pas les seuls à lui devoir une fière chandelle. Perrine s'arracha au songe et se réveilla en sursaut. Les yeux rivés sur le plafond, visible à la chiche lueur des rayons de lune qui filtraient des rideaux, il sentit que sa chemise était imbibée de sueur. Dehors, des violons jouaient un air guilleré. Les Zingari. Ils ne se battraient pas, certes, mais ils avaient trouvé un moyen d'aider, soutenir le moral des combattants. S'asseyant au bord du lit, Perrine remit lentement ses bottes. Comment allait-il s'y prendre pour faire ce qu'il avait à faire? Ce serait difficile, et il allait devoir se montrer malin. Mais avait-il une seule fois dans sa vie été malin? Franchement, il ne l'aurait pas juré. Se levant, il tapa des pieds sur le sol pour bien les faire entrer dans ses bottes. Puis il entendit des cris dehors et un martèlement de sabots, un cavalier qui s'éloignait. Perrine se rua sur la fenêtre la plus proche et tira le rideau. En bas, les compagnons s'agitaient dans tous les sens.
« Que se passe-t-il ? »
demanda Perrine après avoir ouvert la fenêtre. 30 têtes se levèrent vers lui et Ban Alcyn cria.
« C'est le seigneur Luc, seigneur Perrine. Il a failli renverser Will et Tell. Je pense qu'il ne les a pas vus. Il était penché sur l'encolure de son étalon, comme quelqu'un de grièvement blessé, et il fonçait droit devant lui. »
Perrine se gratta pensivement la barbe. Luc ne pouvait pas avoir été blessé depuis longtemps. Donc, Luc est tueur ? Enfin, c'était impossible. Tueur avait l'air d'être le frère ou le cousin de l'âne. Avec ses cheveux roux, si Luc ressemblait à quelqu'un, c'était à Rand, mais de loin. On ne pouvait donc pas imaginer plus différent que Tueur et Luc. Pourtant, il y avait l'odeur. Pas identique, non, mais dépourvue d'humanité dans les deux cas. Perrine capta un son lointain qui venait de l'entrée de l'ancienne route. On écartait des chariots pour libérer le passage, et des gens criaient un peu partout. Mais même en courant très vite, Ban et les compagnons ne rattraperaient pas Luc, déjà assez loin du village pour qu'on n'entende presque plus le bruit de sa cavalcade.
« Ban, si Luc revient, il faudra le placer sous bonne garde et l'empêcher de repartir. Et arrête de m'appeler Seigneur Perrine, bon sang !»
Luc est tueur. Tueur et Luc. Comment pouvait-il s'agir de la même personne? En principe, c'était impossible. Mais moins de 2 ans plus tôt, Perrine doutait de l'existence des blafards et des trolloques. Donc, tout était possible, au contraire. Mais il serait temps de s'en occuper si ce sale type revenait un jour. Pour le moment, il y avait Colline de la Garde, Promenade de Devennes, et... certaines personnes pouvaient être sauvées. À Deux-Rivières, tout le monde n'était pas condamné à mort. Sur le chemin de la salle commune, Perrine marqua une pause avant de s'engager dans l'escalier. Au pied des marches, Aram se leva, prêt à le suivre jusqu'au bout du monde. En bas, Gaul reposait sur une paillasse près de la cheminée. Un gros bandage autour de la cuisse, il semblait dormir. Assis en tailleur sur le sol, Feil et les deux promises conversaient à voix basse. Au fond de la salle, on avait installé une paillasse bien plus grande, mais Loyal avait choisi de s'asseoir sur un banc, les jambes bien tendues pour qu'elle ne coince pas contre la table. Plié en deux, il écrivait à la lueur d'une bougie. À l'évidence, il transcrivait à chaud l'aventure qu'il venait de vivre avec Gaul. Le connaissant, Perrine supposa que Layel aurait le beau rôle. À ses propres yeux, tout ce que faisait Loyal paraissait banal et indigne d'être transmis à la postérité. À part ça, la salle commune était vide. Dehors, les violons jouaient toujours, mais pas un air Zingaro.
« Mon amour est une rose sauvage.
Dès qu'elle aperçut Perrine, Fail se leva souplement. Voyant que le jeune homme ne comptait pas sortir, Aram se rassit.
« Ta chemise est trempée !»
accusa Fail.
« Tu as dormi avec ? Et avec tes bottes aussi, bien sûr. Il n'y a pas une heure que je t'ai laissé. Alors fais demi-tour avant de te casser la figure dans cet escalier. »«
Tu as vu Luc filer ?»
demanda Perrine. Fail pinça les lèvres, mais il fit comme s'il n'avait rien vu. Parfois, il n'y avait pas d'autre solution. En cas de dispute, Fail gagnait bien trop souvent.
« Il a traversé la salle il y a quelques minutes, puis il est sorti par la cuisine. »
Une réponse factuelle. Mais à son ton, Fail n'en avait pas fini avec la nécessité pour Perrine de dormir.
« Il paraissait blessé ?»«
Oui, il titubait. Et il pressait je ne sais quoi contre sa poitrine sous sa veste. Peut-être un bandage. Maître Kongar est dans la cuisine, mais d'après ce que j'ai entendu, il ne s'est pas attardé avec elle. Comment sais-tu qu'il était blessé ?»«
Je l'ai vu en rêve. »
Une lueur inquiétante passa dans les yeux inclinés de Fail. Mais quelle mouche la piquait ! Elle savait au sujet du rêve du loup. Croyait-elle qu'il allait en dire plus alors que Bane et Shiad pouvaient tout entendre ? Sans parler d'Aram et de Loyal. Encore que Logier, concentré sur son œuvre, n'aurait rien entendu si un troupeau de moutons était entré dans l'auberge.
« Gaul ?
Maîtresse Kongar lui a donné une potion pour dormir. C'est elle qui a posé le cataplasme sur sa jambe. Quand les Aes Sedai se réveilleront, l'une d'entre elles le guérira, si son cas est jugé assez grave.
« Viens t'asseoir avec moi, Fail. J'ai quelque chose à te demander. »
La jeune femme eut l'air soupçonneuse, mais elle se laissa guider jusqu'à une table. Quand ils furent installés, Perrine se pencha vers sa compagne et s'efforça de lui parler avec une certaine gravité, mais sans affolement. Surtout pas d'affolement.
« Je veux que tu ailles à Kemlin pour y porter un message de ma part. En chemin, tu pourras t'arrêter à Colline de la Garde et informer les habitants des dernières nouvelles de Chandemonde. À mon avis, ils seraient avisés de traverser la rivière Taren et d'attendre que tout ça soit fini. »
Voilà qui passerait très bien. Une idée qui vous traverse la tête, comme ça, sur le moment.
« Je veux que tu demandes à la reine Morgaz de nous envoyer un détachement de sa garde. Je sais, c'est une mission dangereuse. Mais Bane et Shiad te conduiront jusqu'à Bac-sur-Taren sans te faire courir de risques. Et là-bas, le bac est toujours en état de marche. »
Shiad se leva et regarda nerveusement Perrine. « Pourquoi cette réaction ?»«
Tu n'auras pas besoin de le quitter. »
lui promit Fail.
« Bane suffira. »
Laiel hocha la tête, hésita un peu, puis se rassit à côté de Gaul. Shiad et Gaul ? Mais ils avaient une querelle de sang. Décidément, rien n'avait de sens ces derniers temps.
« Kemlin est très loin d'ici. »
dit Fail d'un ton serein, mais le visage de marbre.
« Des semaines de voyage, le temps nécessaire pour rencontrer et convaincre la reine. Encore des semaines pour revenir avec les renforts.
Nous tiendrons jusque-là. »
assura Perrine.
« Au fond, pourquoi ne pourrais-je pas mentir aussi bien que Matt ? Luc avait raison. Il y a moins de 1000 trolloques sur le territoire. »
Fail hocha la tête. Au moins, elle savait pourquoi elle pouvait le savoir. Le rêve.
« Ici, nous ne risquons rien, mais les monstres continueront à brûler les récoltes et à saccager tout ce qu'ils peuvent. Pour nous en débarrasser, il faudra des renforts. Tu es la plus qualifiée pour cette mission. Étant la cousine d'une reine, tu sais parler aux têtes couronnées. Fail, ce que je te demande est dangereux, je sais. Mais moins que de rester. Cela dit, une fois arrivé au bac, ce sera très facile. »
Bizarrement, Perrine n'entendit pas Loyal approcher et poser devant Fail son grand carnet.
« Je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre, Fail. Si tu vas à Kemlin, peux-tu emporter mes notes avec toi, histoire qu'elles soient en sécurité en attendant que je les récupère ?»
Presque tendrement, Loyal rectifia la position du carnet.
« À Kemlin, ils font de très jolis livres. Perrine, excuse-moi de t'avoir interrompu. »
S'il parlait au jeune homme, Logier continuait à regarder Fail.
« Cette femme est faite pour toi. Tu devrais voler librement, mon ami, comme un faucon. Et elle aussi. »
Après avoir tapoté l'épaule de Perrine, Loyal gagna sa paillasse et s'étendit face contre le mur.
« Il est très fatigué, »
dit Perrine, comme si ce n'était pas très important. Cette ahurie d'Ogier risquait de tout faire rater.
« Si tu pars ce soir, tu seras à Colline de la Garde aux environs de l'aube. Il faudra que tu bifurques un peu vers l'est, où il y a moins de trolloques. C'est très important pour moi. Enfin, pour Chandemonde. Tu acceptes la mission ? »
Fail regarda Perrine en silence, si longtemps qu'il se demanda si elle allait lui répondre. Les yeux bizarrement brillants, elle se leva, s'assit sur les genoux du jeune homme et lui caressa la barbe.
« Il faudrait la tailler un peu. J'aime beaucoup, mais je ne voudrais pas qu'elle te tombe sur la poitrine. »
Perrine en resta bouche bée. Fail utilisait souvent cette tactique, changeait abruptement de sujet, mais quand elle était menacée d'avoir tort lors d'une dispute.
« Fail, j'ai vraiment besoin que tu délivres ce message. »
Les doigts de Fail se refermèrent sur la barbe du jeune homme et elle secoua la tête comme si elle était en proie à un rude conflit intérieur.
« J'irai. Mais mon départ a un prix. Avec toi, je dois toujours en passer par des difficultés. Au Saldaïa, ce ne serait pas à moi de demander. Mon prix est un mariage. Je veux t'épouser. »«
Moi aussi, je veux t'épouser, »
répondit Perrine.
« Ce soir, nous pourrons prononcer nos vœux devant le cercle des femmes. Mais pour le mariage, il faudra attendre un an, quand tu reviendras de Kemlin. »
Fail tira sur la barbe de Perrine presque assez fort pour en arracher une touffe.
« Je veux t'épouser ce soir. Sinon, pas de départ. »«
Si c'était possible, je le ferais. Mais Daes Kongar me fracassera le crâne si je viole nos coutumes. »«
Pour l'amour de la lumière, Fail, accepte la mission, et je t'épouserai dès le premier jour où ce sera possible. »
Ce n'était pas un mensonge. S'il vivait jusque-là. Soudain très concentré sur la barbe du jeune homme, Fail commença à parler lentement. Mais son débit s'accéléra à mesure que son discours se compliquait.
« Bien, j'ai mentionné en passant, oui, tout à fait en passant, à Maître Alvéré, en fait, que nous voyagions ensemble depuis pas mal de temps. Je ne sais pas comment c'est venu dans la conversation, mais elle a affirmé, avec le soutien de Maîtresse Kongar, surtout ne va pas croire que j'en ai parlé à tout le monde, elle a affirmé donc que nous pouvions probablement, enfin plutôt sûrement, considérer que nous sommes, eh bien, selon vos coutumes, en quelque sorte fiancés. L'année de délai permet de s'assurer que les gens vont bien ensemble, ce qui est notre cas, comme tout le monde peut le voir. Et là, je suis aussi effronté qu'une de ces mangeuses d'hommes de la Rade d'Oman ou une de ces chippies de Théar. Mais gare à toi si tu oses seulement penser à Berelaine, et... Mais je bavarde, et tu... »
Perrine interrompit sa compagne en l'embrassant avec toute la passion et la compétence dont il était capable.
« Tu veux bien m'épouser ?»
demanda-t-il, un peu essoufflé, quand il eut fini.
« Ce soir ?»
Sans trop savoir s'il s'était montré le plus performant en matière de passion ou de compétence, Perrine supposa qu'il avait été plutôt bon, puisque Fail l'incita à répéter 6 fois sa demande en mariage, comme si elle était trop remuée pour comprendre ce qu'il disait. Moins d'une demi-heure plus tard, Perrine se retrouva agenouillée en face de la jeune femme, sous le regard de Daes Kongar, Marine Alvéré, Alsbeth Luhan, Neissa Ayelin et toutes les autres femmes du cercle. Réveillée manu militari, Loyal avait été bombardé témoin du marié, tout comme le brave Aram, tandis que Bane et Shiad jouaient ce rôle pour Fail. En l'absence de fleurs, il fut impossible d'en orner les cheveux des futurs époux, mais Bane, sous la supervision de Marine, noua un long ruban rouge d'époux autour du cou de Perrine pendant que Loyal, avec une adresse et une délicatesse surprenantes, en enroulait un autre autour de la chevelure noire de Fail. Les mains tremblantes, Perrine prit celle de Fail.
« Moi, Perrine Aibara, je fais le serment de t'aimer, Fail Bachéré, jusqu'à la fin de mes jours. Jusqu'à la fin de mes jours, oui, et même après. Tout ce que je possède en ce monde est désormais à toi. Un cheval, une hache et un arc. Mais j'oubliais le marteau. Peu de choses à offrir, n'est-ce pas? Alors je t'offre la vie, mon amour. C'est tout ce que j'ai. Je te chérirai, te soutiendrai, te porterai assistance, te protégerai et t'offrirai un foyer chaque jour de mon existence. Hélas, je ne peux pas te garder avec moi. Le seul moyen de te protéger, c'est de t'éloigner de moi. Je suis à toi, aujourd'hui et pour toujours. »
Fail retira ses mains afin de prendre à son tour celle de Perrine.
« Moi, Zarin Bachéré, je... »
Quelle surprise! Elle haïssait ce prénom.
« Je fais le serment de t'aimer, Perrine Aibara. »
Durant toute la déclamation rituelle, les mains de Fail ne tremblèrent pas une seconde.